Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kamaraygal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio SBS. Il est 13h. Avec vous aujourd'hui, Léo Roussel. J'aurai le plaisir de vous accompagner pendant cette heure d'émission en français. Au programme aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons faire un point sur les dernières actualités de ce jeudi 23 mai. Puis vous retrouverez bien évidemment le journal des sports avec Christophe Mallet. Comme chaque jeudi, nous ferons un point sur l'économie avec Nicolas Perpich. Puis vous retrouverez en deuxième partie d'émission la suite de l'épisode 140 d'Europa Voice avant une interview tirée des archives de SBS French. En 2011, Christophe Mallet interrogeait Michel Rocard, ancien Premier ministre français, au sujet de la Nouvelle-Calédonie. Mais d'abord, c'est l'heure de votre journal. À la une de l'actualité de ce jeudi 23 mai, le président français Emmanuel Macron est arrivé ce jeudi matin en Nouvelle-Calédonie. Le chef de l'État a dit se rendre sur place en vue d'obtenir un retour à la paix, au calme et à la sécurité le plus vite possible, après 11 jours d'émeutes. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont annoncé hier qu'ils allaient reconnaître un État palestinien à compter de la semaine prochaine. Israël a exprimé sa colère après ces annonces. La France estime de son côté qu'il ne s'agit pas du bon moment pour faire ce choix. Et puis le Royaume-Uni se rendra aux urnes le 4 juillet prochain. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé hier la tenue d'élections générales anticipées. Celle-ci pourrait voir le retour au pouvoir des travaillistes après 14 ans de présence des conservateurs à la tête du gouvernement. Le président français Emmanuel Macron a atterri ce jeudi matin à l'aéroport international de la Tontouta en Nouvelle-Calédonie. Le chef de l'État était attendu, accompagné d'une délégation composée du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin, du ministre des Armées Sébastien Lecornu et de la ministre déléguée aux Outre-mer Marie Guévenoux. Trois hauts fonctionnaires font également partie de cette délégation. Leur rôle sera de renouer le dialogue entre indépendantistes et loyalistes dans l'archipel. Le président était attendu dès ce matin au Haut Commissariat de la République à Nouméa, où il a également rencontré plusieurs maires et élus de l'archipel. Il s'est exprimé dès sa descente de l'avion et a déclaré espérer un retour rapide à la paix et au calme, assurant que des annonces seraient faites dès la fin de sa première journée dans l'archipel.
Ma volonté ici, avec les ministres et l'ensemble du gouvernement, d'être aux côtés de la population et pour que le plus vite possible, ce soit le retour à la paix, au calme, à la sécurité. Nous aborderons évidemment les questions de reconstruction économique, de soutien, de réponse rapide, et puis les questions politiques les plus délicates pour parler de l'avenir, justement, de la Nouvelle-Calédonie. À l'issue de cette journée, des décisions seront prises et des annonces seront faites avec cet objectif.
Et l'Australie continue de son côté à collaborer avec les autorités françaises et néo-calédoniennes pour rapatrier davantage d'Australiens coincés en Nouvelle-Calédonie. Deux avions transportant plusieurs Australiens ont pu quitter la Nouvelle-Calédonie hier et une centaine d'autres Australiens auraient été rapatriés dans la nuit. La ministre des Affaires étrangères Penny Wong affirme que de nombreux ressortissants australiens restent à ce jour bloqués sur place. L'Irlande, l'Espagne et la Norvège ont annoncé mercredi qu'ils allaient reconnaître un État palestinien à partir du 28 mai prochain. Les trois pays ont présenté cette décision comme une mesure visant à accélérer les efforts pour obtenir un cessez-le-feu dans la guerre qu'Israël mène contre le Hamas à Gaza depuis le 7 octobre. L'annonce a provoqué la colère d'Israël qui a rappelé ses ambassadeurs des trois pays. On écoute la réaction du porte-parole du gouvernement israélien David Menzer qui estime que cette décision ne fera qu'aggraver le conflit dans la région.
Ireland, Norway and Spain are telling Hamas in a loud and clear voice that the October 7th massacre pays off. They are telling Palestinians that educating children to terrorism and refusing to accept a Jewish state pays off. There is no talk of bridge building, of coexistence, of bringing people together. No. These countries encourage and perpetuate war.
Et seule une poignée des 27 pays membres de l'Union européenne reconnaissent la Palestine comme un État. La Grande-Bretagne, l'Australie, mais aussi Malte et la Slovénie ont indiqué ces derniers mois qu'ils pourraient bientôt suivre le mouvement et reconnaître un État palestinien. La France a, elle, indiqué de son côté que les conditions n'étaient pas réunies à ce jour pour que la décision ait un impact réel. Les Britanniques se rendront aux urnes plus tôt que prévu. Le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé mercredi l'organisation d'élections législatives anticipées le 4 juillet prochain. Le chef du Parti conservateur semble profiter de l'annonce de la baisse de l'inflation dans le pays, mais le pari reste osé. Les conservateurs sont en retard dans les sondages et les prochaines élections pourraient ainsi voir le retour des travaillistes au pouvoir après 14 ans d'absence. Le chef de l'opposition, Keir Starmer, a salué l'annonce de Rishi Sunak, estimant que le pays avait besoin d'un changement politique.
Now it will feel like a long campaign, I'm sure of that. But no matter what else is said and done, that opportunity for change is what this election is about.
Le ministère russe de la Défense affirme ce mercredi que ses troupes ont repris le village de Klishivka dans l'est de l'Ukraine. Les forces russes avaient initialement occupé le village près de la ville clé de Barmout au début de l'année 2023, mais il avait été repris par l'Ukraine plus tard dans l'année au cours d'une contre-offensive. Les autorités ukrainiennes avaient déclaré plus tôt dans la journée de mercredi que la situation était sous contrôle dans le village. Ces derniers mois, la Russie a profité de la baisse des livraisons de munitions étrangères à l'Ukraine pour reprendre ses avancées dans le nord et l'est du pays. Les Australiens présents dans le vol de Singapore Airlines, à bord duquel des passagers ont été violemment projetés dans la cabine en raison de violentes turbulences, ont commencé à rentrer chez eux. Le vol en provenance de Londres comptait 56 Australiens à bord lorsqu'il a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence à Bangkok en Thaïlande. Les passagers soulagés sont arrivés à l'aéroport de Sydney mercredi soir. L'un d'eux a raconté la scène de chaos dans l'avion.
It's so sudden, there was no warning at all. And I ended up hitting my head on the ceiling. Some poor people were walking around, ended up doing somersaults. It was instantaneous. It really was. And horrible.
Et un Britannique de 73 ans est décédé dans cet incident et plusieurs Australiens sont toujours en soins intensifs en Thaïlande. Et puis en Australie toujours, le gouvernement de l'État de Nouvelle-Galles du Sud va prolonger la durée de vie de la plus grande centrale à charbon du pays. La centrale Deraring au sud de Newcastle était censée être mise hors service en 2025. Son opérateur Origin Energy et le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud sont en pourparlers pour prolonger la durée de vie de la centrale pour au moins 2 ans. Une étude a mis en garde contre le risque de pénurie d'électricité et d'augmentation des prix en cas de mise hors service prévue en août 2025. La ministre de l'énergie de la Nouvelle-Galles du Sud, Penny Sharp, affirme que l'accord est temporaire afin de garantir un approvisionnement minimum en électricité jusqu'à la nouvelle date de fermeture.
This agreement is a responsible step to ensure that a plan is in place as we deliver the transition that New South Wales needs, but we make sure that the people of New South Wales have the energy that they need, that we don't have blackouts, and that prices are stabilised while we move to cleaner, cheaper, renewable energy.
Et un point sur la météo avant de refermer ce journal. Une journée ensoleillée à Sydney ce jeudi, avec des températures atteignant 20 degrés. Du soleil également à Brisbane, où jusqu'à 24 degrés sont attendus. Des températures un peu plus fraîches du côté de Canberra ce matin, mais toujours sous le soleil. La météo est un peu plus nuageuse à Melbourne, où il fera jusqu'à 15 degrés, mais aussi à Adélaïde, avec 18 degrés. Le mercure atteindra 27 degrés sous le soleil de Perth en Australie occidentale, 32 à Darwin et 28 à Cairns où quelques pluies sont attendues. Des précipitations devraient également ponctuer la journée à Hobart en Tasmanie où il fera jusqu'à 15 degrés.
Mmh.
Il est 13h15, vous êtes bien sur SBS French. Tout de suite, c'est l'heure du journal des sports avec Christophe Mallet.
Journal des sports, et on débute avec du cyclisme et la 17e étape du Tour d'Italie, le Giro, remporté par l'Allemand George Steinhauser. Une très belle étape, une très belle victoire pour ce jeune Allemand, sa première victoire au plus haut niveau mondial du cyclisme. On l'écoute.
Today, already when I rolled to the sign-on, I thought to myself, I have good legs. Maybe I will win today. And then I went from the beginning in the break. It was a little bit strange because we got caught by the peloton again, but at one moment I decided I have to try again, and I did, and it worked out.
Your father rode the Giro before you. Did you think of him during these 34 kilometers solo?
To be honest, I didn't really think about much. I just concentrated on the road in front of me. The roads were super wet and slippery. I was super nervous on the last climb. I knew I had to push all the way to the finish. I heard at one point that he's attacking, but I was already 2 km to go, so I thought I will make it.
George Steinhauser, donc, a noté que Tadej Pogacar est encore plus le leader de ce Giro, après avoir encore une fois atomisé la majeure partie de ses concurrents. Donc en tête et maillot rose de ce Tour d'Italie, à quelques jours de la fin de l'épreuve, qui se terminera donc dimanche à Rome. Allez, on parle de football, direction l'Italie, encore une fois, avec la très belle victoire de l'Atalanta Bergame. Atalanta Bergame qui remporte son premier trophée depuis près de 61 ans. Rendez-vous compte, l'Atalanta Bergame qui remporte la Ligue Europa avec un homme clé, l'attaquant nigérian Ademola Lookman. Thomas de Saint-Léger.
Et dire qu'il n'est pas toujours titulaire dans le 11 de Gasperini, Ademola Lookman a peut-être des creux, des coups de moins bien. Quand il est en forme, c'est un joueur à part, redoutable, imprévisible. Ses dribbles et sa vitesse avaient donné le tournis aux défenseurs marseillais lors de la demi-finale retour. Un but, une passe décisive ce soir-là. Le Super Eagle a remis ça en mieux, au meilleur moment, en finale de la Ligue Europa face aux invincibles de Leverkusen. Un premier but de près, suivi d'un enchaînement superbe, dribble extérieur, frappe enroulée pour doubler la mise avant le clou du spectacle, passement de jambes pour enrhumer Tapsoba. Le défenseur burkinabé frappe surpuissante du pied gauche en pleine lucarne, 3-0. Un triplé en finale de Coupe d'Europe du jamais vu depuis 1975. Finaliste malheureux de la dernière CAN avec sa sélection, Lookman grave en lettres d'or une première ligne à son palmarès personnel. Il offre aussi à l'Atalanta le deuxième trophée de son histoire après une Coupe d'Italie soulevée en 1963. Le retour à Bergame s'annonce triomphal pour la DA. La déesse et son petit diable, Ademola Lookman.
Voilà donc pour cette très belle victoire donc de l'Atalanta Bergame. Vous l'aurez compris également, c'est une victoire qui met fin à 51 matchs sans défaite pour le Bayern Leverkusen cette année. Il tombe donc à la dernière marche avant d'avoir une invincibilité complète. On parle de judo et les mondiaux, dernière grande compétition mondiale avant les Jeux Olympiques de Paris. Et eu un grand espoir français de médaille, Madeleine Malonga.
Je vous avoue qu'il y a dans un coin de ma tête que remporter un titre mondial, ça serait super. Et en même temps, c'est une bonne préparation aussi avant les Jeux Olympiques.
Est-ce qu'il faut performer aux mondiaux pour forcément performer aux Jeux?
Non, je ne pense pas que ça soit une obligation de performer. Il y a des filles qui peuvent claquer les mondes et se foirer un petit peu au premier tour aux Jeux aussi. Donc si ça ne va pas au bout au championnat du monde, et ben, ça n'empêchera rien que je puisse aller au bout aux Jeux.
Voilà donc pour le judo, et à moins de 100 jours du début des Paralympiques, on parle de basket fauteuil.
Ils seront près de 4500 de partout dans le monde, et parmi eux, Sofiane Meyaoui, à 40 ans, le natif de Soualia dans l'extrême ouest algérien et membre de l'équipe de France de basket fauteuil. Il a confié ses ambitions et son impatience de jouer devant le public français.
C'était la qualification la plus importante de ma vie, le tournoi le plus important de ma vie, parce que les Jeux Paralympiques ont lieu à Paris. chez moi, ça aurait été dur de vivre ces Jeux et de ne pas être présent. Tout le travail qui a été fait pour sensibiliser les enfants, les collaborateurs aussi dans les entreprises, c'était important pour moi d'être qualifié. Pour moi, c'était important parce que c'est vrai que le basket fauteuil, c'est un sport où tout le monde peut jouer ensemble, qu'on soit handicapé ou pas. Donc c'est vrai que en termes d'inclusion, en termes de démontrer que même si on est en situation de handicap, on peut faire du sport et on peut faire du sport de haut niveau.
Sofiane Meyaoui, le joueur de l'équipe de France de basket fauteuil avec Olivier Pron. Pour rappel, les Jeux paralympiques se tiendront du 28 août au 8 septembre prochain.
Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français. Vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite.
À 13h24 sur SBS French, on fait une courte pause, puis on se retrouve avec le journal de l'économie présenté par Christophe Mallet.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Allez, comme chaque semaine, on va parler d'économie avec notre spécialiste sur la question, Nicolas Purpich. Bonjour Nicolas.
Salut Christophe.
Alors on va parler de quelque chose qui touche un peu tout le monde, un nouveau développement dans le débat de l'énergie nucléaire. On sait qu'en Australie, on se pose énormément de questions sur le nucléaire. Et là, il y a une étude qui estime le prix d'un centre nucléaire.
Voilà, parce que tout ça, ça revient au prix de l'énergie. Bien sûr, l'énergie qui coûte de plus en plus cher, donc c'est quelque chose qui touche les finances de tout le monde. Il y a un débat ici depuis un moment avec, bien sûr, la transition d'énergie pour décarboniser l'économie. Donc, il y a des gens qui disent il faut plus de solaire, il faut plus de vent, et il y en a d'autres qui disent le nucléaire, c'est la solution. En particulier, l'opposition de Peter Dutton et d'autres. Et là, donc, il y a la CSIRO. CSIRO, c'est le centre scientifique, l'institution scientifique la plus importante ici en Australie, qui a fait maintenant une étude là-dessus, des recherches là-dessus, et ils ont trouvé que pour construire un grand centre nucléaire ici en Australie, ça va coûter à peu près ou au moins 8,5 milliards de dollars et ça va prendre 15 ans pour le faire, pour le construire. Et ça, tout ça, c'est au minimum. Et donc, ils disent que ça, c'est à peu près deux fois le prix de l'énergie renouvelable. Parce qu'ils ont comparé donc l'énergie nucléaire avec d'autres options ici en Australie et ils ont trouvé donc le nucléaire, le prix du nucléaire, c'est à peu près la même chose que le prix du gaz et des grandes usines de charbon.
Mais il y a une question qui se pose parce que l'Australie a pris un virage nucléaire déjà avec les sous-marins, la fameuse histoire des sous-marins. Est-ce qu'on peut lier les deux ou est-ce que le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont vraiment deux choses totalement différentes?
Ça a l'air d'être complètement différent et il y a des lois différentes et en fait, pour avoir des centres nucléaires ici en Australie, il faudrait d'abord changer la loi parce que c'est interdit pour le moment. De toutes les façons, on a bien sûr un centre nucléaire scientifique à Lucas Heights à Sydney, mais il n'y a pas de centre d'usine d'énergie nucléaire en Australie. Donc il faudrait que le Parlement décide de changer la loi. Donc il y a plein d'obstacles en fait. Et là, selon le CSIRO, le prix c'est un obstacle. Ils disent pas que c'est pas possible. C'est possible, mais quand ils regardent d'autres pays, ça prend longtemps déjà dans d'autres pays, aux États-Unis et ailleurs. Probablement la Corée du Sud, c'est là où ils en fait le plus. Mais ici, on n'a jamais fait, donc ça sera la première fois. En plus, c'est une démocratie en Australie, donc il y a toujours les débats dans le Parlement. Tout ça, ça va ralentir les choses. Donc, ils pensent, voilà, au moins 8,5 milliards de dollars, au moins 15 ans, peut-être plus. On finirait avec, si ça se fait, ça serait d'à peu près 150 dollars ou 250 dollars pour chaque heure de mégawatt. Et ça c'est toujours à peu près entre la moitié et deux fois le prix de l'énergie renouvelable. Alors, tout ça, bien sûr, ça devient très, très politique. l'AIA, donc Mr. Dutton qui dit qu'il voudrait bien construire toute une série de centres nucléaires autour du pays, et ça fait partie de son plan avant les élections là. Il n'y a pas trop de détails dans son plan, mais quand même, il pense que c'est quelque chose qui est bien parce que ça peut aider à décarboniser, parce que en fait, le nucléaire, ça peut marcher 24 heures sur 24 et il n'y a presque pas de gaz à effet de serre. Mais bon, le gouvernement dit que cette étude par la CSIRO, ça montre que en fait, les renouvelables sont bien, bien moins chers. Et que le nucléaire, c'est le plus cher et c'est lent, c'est cher et il y a des risques. Donc voilà, tout ça, ça va devenir un débat politique. Si le gouvernement de Anthony Albanese est réélu, on va pas trop en entendre parler. Si Peter Dutton devient le premier ministre, et ben là, il va essayer de pousser ça au maximum.
Mais c'est un peu, allez, on va finir là-dessus, mais c'est un peu la Madeleine de Proust, hein, ça et le train entre Melbourne et Sydney. C'est des sujets qui reviennent quand même globalement assez souvent sur la table. Hein.
Oui, c'est vrai, mais bon, en Australie quand même, les centres nucléaires, il y a un peu, peut-être on en a un peu moins parlé que le TGV entre Sydney.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
Mais aussi là, ça devient de plus en plus pointu avec le changement climatique aussi.
Ouais, tout à fait. Allez, on va parler justement de transport dans notre deuxième sujet. Le nombre de passagers de vol intérieur a atteint le niveau qu'il avait avant la pandémie. Et il y a un fait qui est intéressant, c'est que c'est un peu à grâce à Taylor Swift, ma fille va être contente.
Bah, voilà.
Ou pas d'ailleurs.
Ouais,
mais bon.
Ouais, donc, parce que Taylor Swift, elle est venue, elle a fait des énormes méga concerts à Sydney et Melbourne. Et donc, selon le Australian Competition and Consumer Commission, ça a eu un effet. Et il y avait des gens, donc dans le mois de février et même en mars, et il disait qu'il y a des gens qui ont fait le voyage, et c'est vrai, j'en connais même qui sont venus d'ici à Perth pour aller voir Taylor Swift à Sydney, et ils disent que ça a vraiment contribué. Mais non, pas seulement les deux énormes concerts de Taylor Swift, mais aussi il y avait un spectacle de lutte de la World Wrestling Entertainment ici à Perth, et j'ai rencontré des gens qui étaient venus de Melbourne, de l'Australie du Sud, un peu partout, donc ça a vraiment apparemment contribué. Et là, on a vu en février, il y a eu presque 4,5 millions de passagers qui ont pris des vols intérieurs ici en Australie, ce qui était un peu plus que les 4,3 millions en février 2019, juste avant la pandémie. Et même pour le mois de mars, ça continue. C'est un peu plus qu'en 2020, en tous les cas, avec la pandémie. Donc, c'est vrai qu'on dirait qu'on a recommencé à prendre des vols autant qu'avant tout ça, quand le Covid-19. Et tout ça, c'est intéressant aussi parce que, en même temps, on en avait parlé il n'y a pas longtemps de la ligne aérienne Bonza.
Ouais, tout à fait, qui n'a pas pu survivre.
Donc, il y a apparemment le prix des vols, c'est un peu pour des billets, c'est moins cher en ce moment, mais malgré tout ça, Panda n'a pas pu survivre. Donc ça reste toujours Jetstar, Qantas et Virgin qui sont les lignes dominantes. Et c'est intéressant de voir qu'il y a tellement de gens qui prennent des vols en même temps qu'on a cette crise du coût de la vie. Donc ça n'a pas l'air d'être en train d'empêcher les gens de prendre des vacances, ouais, ou de bouger quand même.
Et la crise écologique aussi. En Europe, on parle beaucoup du nombre de vols, une sorte de crédit de vol que les gens pourraient avoir. On n'en est pas encore là en Australie. En tout cas,
non, pas trop. C'est un peu le genre de pays qu'on a. C'est tellement énorme que si on ne prend pas un vol, il faut conduire pendant 5 jours.
Ouais, voilà. Et alors, c'est quoi le problème? Non, je rigole.
Ouais, si on a le temps, c'est formidable.
Ouais, tout à fait. Merci, ouais. Nicolas.
Merci, Christophe.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
We have elections coming up here in June. There's something that we've been talking a lot as well is the exchange between the fair trade exchange between Australia and Europe. Where are we at? Because when Macron came here, it was for, I mean, I actually asked him a question, Macron, about it, and he answered that was coming up. But at the time, you know, we had two or three different prime ministers since then here. Where are we at?
And a couple of submarines.
Yeah, exactly. Couple of submarines in and out. So where are we at?
You raised several things in that question. The first is that currently the negotiations, to give you a technical answer, the negotiations are suspended. They were suspended at the decision of the Australian Trade Minister in October 2023. And the current position of the Australian government is that they expect trade negotiations to resume, but quite probably not until after the Australian elections in 2025. From an EU perspective, they were very, very disappointed at the way in which Australia ended the negotiations last year. They felt that it was based on a misunderstanding, would be the polite way to put it, and the negotiators themselves felt that they were very close to an agreement. The response of the Australian government suggests that there are some domestic issues that are still at play that are in the way. From the point of the EU, their negotiators would return to the table tomorrow in some confidence that a deal is very close. So the ball is really in the hands at the present time of the Australian government, and possibly after the June elections, something could happen before the end of the year. If it doesn't happen by October, then there will be a change in the European Commission, and we will have to see how that lands early in 2025.
Mm-hmm. Yeah, let's remain positive on this. It can happen. It will happen.
The thing that's disappointing to me, I've been actively linked with the negotiations since they began. There is so much in this trade deal that would be of benefit to both Europe and to Australia. And we now have a lot of research evidence that demonstrates that those companies that do engage in trade provide better quality jobs, they pay more, and they generate more employment. And we would like to see that happen.
And just to extrapolate on this, the submarine fiasco, let's put this name, fiasco. The submarine fiasco, how much did that dent that discussion?
Very seriously. And if there had not been a change of government in May 2022, the relationships between Australia and the EU would still be very difficult, I believe. After that election, Prime Minister Albanese met President Macron quickly. They formed a good working relationship. Albanese has met also with the European Commission President and other senior EU leaders. They also have active working relationships. So I think we would be in a very different circumstance if that hadn't happened. But the immediate response of the EU, as well as France, to the decisions around the submarines was, of course, one of shock and then of serious disappointment.
At the time we record this podcast, Bruce, some serious incidents happen in the Indo-Pacific and in New Caledonia. So there's a lot of instability in the region. There's also the willingness of China to be more and more involved, let's call it like that, in the Pacific region. Do you think that what happens in the Pacific will automatically also make Australia and France and Australia and the EU work more together to ensure the stability of the region?
This is very clearly part of the intent of the European Union and of France specifically. France was the first European Union member state to have an Indo-Pacific strategy. And in 2021, ironically, the same day as Prime Minister Morrison announced AUKUS, the EU announced its Indo-Pacific strategy. Both documents are very clearly about asserting the interest of France and the EU in the Pacific. The Pacific, of course, is home to to France's largest exclusive economic zone. There's more of France in the Pacific than there is in Europe, something not many people know. And they are also Australia's nearest neighbour. Again, something that not many people know. Mm. So the potential of this relationship to be much more significant than it is now is very real.
Yeah, we're going to have to close this interview very soon. But just to conclude, how much of the interest from the Australian public has risen in the general opinion for Europe? for European Union, for Europe. It seems to me that for a long time in here it was Britain first. It was always Britain is the gateway to Europe. You know, the people here were not going to Europe; they were going to Britain. But now there's a duopoly over there. There's the motherland, ex-motherland, blah blah blah, Britain. But it's Europe. How have you seen this change in your career? And your lead at RMIT.
You're absolutely right in what you say. And you mentioned Brexit before. Brexit itself did a wonderful amount of work to promote the European Union in Australia.
Anything to make the Brits look ridiculous? we're jointing at a hip. You know?
that's certainly an element of what happened. And to be blunt, I think there's no question that Brexit has made the UK look ridiculous. And it's something you can actually say with regret that the impact of Brexit on the UK has been very damaging. Whereas for the European Union, in some ways, it's actually been a benefit not to have the UK there. That's not something they would ever say themselves. They would prefer the UK was in. But it has made decision-making around a number of issues easier without the UK at the table.
Hear you talking about a European army, for example?
For example, the position of President Macron on European security is very clear, and he is certainly promoting an important debate in that direction. Beyond that, I suspect that it's still football that generates more interest in Europe than many other things. But there's no question that as the trade deal negotiations have developed, more and more businesses have become alert to the possibilities that exist in Europe. And certainly, as you say, that recognition that the European Union is something quite different from the UK.
Yeah, absolutely. It was a real pleasure to have you in a podcast. The gates and the doors or whatever, les portes sont toujours ouvertes. They're always, you're always welcome here. Thank you, Bruce.
Thank you. Thank you very much.
Allez, on vous en parlait en début d'émission. On vous propose maintenant un retour en arrière en 2011. Notre collègue Christophe Mallet interrogeait à l'époque Michel Rocard, ancien Premier ministre de 1988 à 1991, nommé par François Mitterrand quelques jours seulement après le massacre de la grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. Il avait joué un rôle important dans le retour de la paix dans l'archipel en faisant signer les accords de Matignon en rassemblant autour de la table Jacques Lafleur, leader anti-indépendantiste, et Jean-Marie Tjibaou, leader indépendantiste kanak. Il revenait donc sur cette période en 2011 au micro d'SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Michel Rocard, vous êtes content de votre bilan?
La moitié. Dans mon bilan, il y a la paix en Nouvelle-Calédonie, on a eu le temps d'en parler.
Mais ça, on peut en parler si vous voulez. Parce que ça,
il y a le sauvetage de l'Antarctique, dont je suis de plus en plus fier tous les jours, au fur et à mesure qu'autour de moi on en prend conscience. C'est un bilan décent. Mais j'ai été un politique à grand niveau, j'appartiens à une génération qui va, quand elle s'en va, laisser le monde en bien pire état qu'on l'a trouvé, avec plein de dommages, plein de dégâts et une absence de traitement. Ma génération n'a pas beaucoup de raisons d'être très fière de son legs. Et son legs va empoisonner à travers la dette et les pollutions et le réchauffement climatique et la vie des descendants. Pas très glorieux.
Vous avez juste dit un mot sur la Nouvelle-Calédonie. Ça a été un des grands succès de votre carrière, ça.
Oui, ces choses sont assez simples. La Nouvelle-Calédonie a été conquise par les Français en 1853, je crois, si je me souviens bien. C'est dans l'ensemble de l'Empire français. Il y avait quelques îles dans les Caraïbes. Il y avait la moitié de l'Afrique de l'Ouest. Il y avait l'Indochine. La Nouvelle-Calédonie est objectivement le territoire où le colonialisme a été le plus brutal, le plus sauvage. Il y a eu des explosions très souvent. Et ça a continué. Et chaque fois, le gouvernement français réagissait par la répression. Et accompagnant la répression, un changement législatif du statut local, pour que ça marche autrement, décidé à Paris sans jamais consulter personne. Moi, je suis nommé Premier ministre 5 jours après un massacre. L'armée française avait foncé sur une grotte où une vingtaine de Kanaks tenaient en otage 19 de nos gendarmes pour sanctionner une violation de sa parole donnée par l'État français. Monsieur Pons avait été le ministre des départements d'outre-mer avant, il voulait un nouveau statut, il était embêté que personne n'aille voter, et il avait fait dire, parce que tout le monde se connaît en Nouvelle-Calédonie, il avait fait dire au chef Kanak, vous n'aimez pas ce statut, votez donc non, mais venez donc voter quand même, personne ne vous connaît, on ne vous mesure pas, etc. Et les types qui jusque-là ne faisaient que du boycott, et du boycott offensif. Ils interdisaient l'accès au bureau de vote et on s'est tripé, on se tuait un peu à chaque élection en Nouvelle-Calédonie. C'était grave. Et les chefs kanaks ont fait répondre, après tout, pourquoi pas, et vous verrez bien que notre nom est gros, mais il y a une condition, c'est que vous fassiez voter ça un jour où il n'y a pas une élection nationale dans laquelle on aurait des résultats pour ne plus en parler. Le ministre promet, le premier Jacques Chirac viole la promesse et met ce référendum sur le statut Ponce le premier jour de la présidentielle suivante. La colère, d'autant que c'était la seconde promesse violée, la première étant tout aussi solennelle, et signée Général de Gaulle, la première. On maintiendra la loi d'avant. Formidable. Et du coup, devant cette colère et cette découverte qu'on ne peut pas négocier avec la France, elle ment. Vous vous rendez compte, la honte. Les Kanaks furieux prennent en otage 29 gendarmes. Et l'armée donne l'ordre, enfin l'armée, c'est signé du gouvernement et même du président de la République, l'ordre d'assaut, décide d'envahir cette grotte soi-disant pour libérer les otages. En fait, il prenait le risque que les otages soient assassinés dans la bataille. Et c'est d'ailleurs exemplaire que ces 19 Kanaks se soient fait tuer. Il n'y a pas eu un otage mort, sans se retourner vers les otages. L'humanité n'est pas du côté qu'on croit dans ces cas-là. L'affaire est effroyable. Et je suis nommé Premier ministre 5 jours après. Et moi, j'ai l'idée de prendre notre temps et d'envoyer là-bas une mission de personnalité à haute moralité, un évêque, le président de la Fédération protestante de France, s'il vous plaît, un ancien grand maître du Grand Orient et un juge à la carrière pleine de respect pour le droit. Pas pour l'État, pour le droit. On demande à ces hommes d'aller rencontrer tout le monde là-bas et de comprendre à quel prix ils accepteraient de se reparler entre eux d'une part et de reparler avec le gouvernement français. Car des deux côtés, la communauté blanche considérait que nous étions des traîtres et la communauté caldoche considérait que nous étions fils de menteurs. Donc on ne se parlait pas. Et ça a duré 6 semaines. Et non seulement on s'est remis à se parler, mais il est devenu possible de convoquer des corps collectifs et ils ont rédigé la paix ensemble. Je servais d'entremetteur et d'arbitre quand il y avait une petite discussion pointue. C'est une paix négociante, c'est la première.
Ouais, tout à fait.
Mais mes meilleurs observateurs en France, tout le monde était bien content, c'est à 20 000 km, il y a que 200 000 habitants, c'était bien loin. En Australie, c'est juste à côté, et quand ils ont appris que 2 stagiaires kanaks avaient, en utilisant l'argent australien, été faire des stages en Libye, et en Libye, on apprenait plutôt le maniement d'armes que la tenue des bureaux de vote. Nos amis australiens ont compris que c'était peut-être pas si simple, et j'ai reçu depuis l'Australie une observation technique, bien minutieuse, des détails, qui a renforcé notre confiance mutuelle. Mmh. Alors, je suis bien chez moi quand je suis dans ce pays.
Et ben, en tout cas, ça nous fait plaisir de vous avoir, monsieur Michel Rocard, merci.
Merci.
C'était un plaisir, et puis un plaisir personnel aussi.
Merci à vous.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Il est 13h58 sur SBS French. C'est l'heure du rappel des titres de ce jeudi 23 mai 2024. Le président français Emmanuel Macron est arrivé ce jeudi matin en Nouvelle-Calédonie. Le chef de l'État a dit se rendre sur place en vue d'obtenir un retour à la paix, au calme et à la sécurité le plus vite possible après 11 jours d'émeutes. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont annoncé hier qu'ils allaient reconnaître un État palestinien à compter de la semaine prochaine. Israël a exprimé sa colère après ces annonces. La France estime de son côté qu'il ne s'agit pas du bon moment pour faire ses choix. Et puis le Royaume-Uni se rendra aux urnes le 4 juillet prochain. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé hier la tenue d'élections générales anticipées. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french et sur toutes les plateformes de podcast de votre choix. J'ai été très heureux de passer cette heure en votre compagnie. Votre prochain rendez-vous avec le programme en français en direct, ce sera samedi, même fréquence, même heure. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent jeudi après-midi sur les ondes d'SBS Radio.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.